Je ne sais pas si vous avez remarqué, Thérèse, il y a une espèce de deuxième couche à l'intérieur.
Dans le cabinet du psychanalyste viennent des couples qui sont d'autant plus perméables aux méfaits de leur époque qu'ils sont fragilisés par les vicissitudes de leur amour. Des couples en difficulté qui, pleins de ce que leur vendent les médias, pensent parfois qu'ils ont des problèmes de communication. Voyez-vous, ou au fil du temps, ou avec l'arrivée d'un enfant, ou avec les exigences de la vie quotidienne, la chambre nuptiale ne communique plus avec la salle de bain, ni la cuisine avec le salon. Et chacun boude dans des pièces soudainement séparées. La cuisine à l'américaine, qu'on croyait si conviviale, a laissé place maintenant à un mur de ressentiment, de frustration et d'incompréhension. Ah, ces Américains! On voudrait communiquer donc. Quoi de plus banal que ce mot-là et ses vassaux, communication et communicant? Quoi de plus répandu aujourd'hui que cette vase communicante? Quoi de plus contagieux que ces mots-là qui se targuent de n'être porteurs d'aucune idéologie et que, soit bêtise, soit manipulation, on déclare neutre? Passe encore, s'il s'agissait du beau neutre de Roland Barthes, celui qui se déclinait en oscillation, silence ou encore délicatesse. Je passe sur ce que les mots de communiquer fait entendre de baisage collectif. La magie du langage est telle qu'à notre insu, ce sont souvent les sons des mots qui nous font entendre ce que leur sens camoufle. Avec les mots communiquant, niquer, la langue insolente dévoile que la communication est la pornographie du langage. Elle rêve de dresser ce rebelle aux mille facettes. Elle rêve d'en finir avec ce révolté qui n'a de cesse de ne pas se laisser domestiquer, ce fraudeur, cet excentrique, cet indomptable poète. La communication est la geôle du langage. La communication suppose une forme d'immédiateté et rêve de gagner du temps. Elle croit, dur comme fer, et parfois même de bonne foi, que les incompréhensions sont des malentendus et des maldits, et c'est donc assez logiquement qu'elle se proclame prêtresse d'un bien-dire. Le succès du mot et de la chose vient aussi de ce que la communication suppose la réalisation d'un fantasme où se comprendre immédiatement et sans déchet serait possible. La communication est la pornographie du langage parce que, faisant faire au langage un tas d'acrobaties plus ou moins amusantes, elle prétend qu'il n'y a rien à cacher. Ainsi, l'exhibition confine à la pudibonderie, et ceux qui sont prêts à tout montrer seraient aussi ceux qui n'auraient rien à cacher, soit vacuité, soit moralisme, l'un n'excluant nullement l'autre. Paradoxalement, la pornographie de la communication va de pair avec sa pudibonderie. La communication veut la peau des sous-entendus qui échappent au contrôle, des secrets qu'elle appelle cachotterie, des références implicites qu'elle appelle élitisme, de la polysémie qui fait qu'à son insu, chacun dit toujours plusieurs choses en une seule et que, bien loin d'être les maîtres du langage, on en est plutôt les sujets. Nul ne connaît les origines du langage, mais à coup sûr, les tenants de la communication sont persuadés qu'il a été inventé par nos ancêtres poilus aux besoins frustres dans le but de se comprendre. Bref, ils font du langage un code, ce qui pourrait bien expliquer que les communicants de tout poil flirtent avec une vision naturaliste de l'humanité qu'ils ne seraient pas loin de confondre avec une horde de mammifères réduits à des besoins et, enfin, délivrés de toute l'ambivalence du désir. Or, le langage est avant tout une invocation, un chant, une prière, une magie noire et blanche qui convoque dieux et diables à chaque parole. Les communicants restreignent le langage à ce qu'il véhicule de sens et si possible de bon sens, oubliant qu'il est avant tout, et dès le départ, un jeu où se creuse et se mesure l'écart entre son et sens, un jeu par lequel, dès le départ, nos ancêtres humains ont été construits par la complexité de leurs identités et l'ambivalence de leurs désirs. Ni Dieu, ni animaux, ni purs esprits, ni purs corps, les humains n'ont pas inventé le langage, mais bien au contraire, ils se définissent de ce qu'ils parlent. Au commencement était le Verbe, et là commença l'histoire, là commencèrent les histoires. Nommé provoque un écart entre le monde et toute tentative de le comprendre. On parle parce que le mot n'est pas la chose. Tous les arts, religions et philosophies explorent l'écart vertigineux entre le monde et son mystère. La communication, elle, fait la promesse fallacieuse d'un monde sans écart, d'un monde sans flou ni vertige. Dans cette promesse d'une humanité délivrée des souffrances de l'incompréhensible, elle enterre tout aussi bien la spiritualité, la philosophie, l'amour et les arts. Les couples qui pensent avoir des problèmes de communication partagent le même fantasme, que ce qui unit ne sépare pas en même temps, qu'on puisse avoir une face de la pièce sans l'autre. Et certes, le dialogue et l'écoute sont des alliés puissants pour nos humains sentiments. Nul doute pourtant qu'il ne s'agit pas de communiquer, mais de se parler. Chacun ayant alors affaire à l'angoisse sublime et douloureuse de ne faire un avec rien. Si le psychothérapeute de couple peut se faire ponctuellement le traducteur de la langue de l'un pour la langue de l'autre, il n'en reste pas moins que notre langue est, pour l'autre, et d'ailleurs pour nous-mêmes bien souvent, une langue étrangère. Le langage échappe aussi bien aux amoureux qu'aux thérapeutes, comme il échappe autant aux croyants qu'aux prêtres ou aux esthètes qu'aux artistes. Le langage, qui nous façonne, nous échappe. Les mots ont un pouvoir magique. Ils infusent en nous et nous transforment. Les mots ont un pouvoir magique, ce sont eux qui nous donnent naissance. Ce qu'il y a d'éminemment dangereux dans la communication, c'est qu'elle prétend qu'on peut avoir une part du langage sans l'autre. C'est qu'elle prétend pouvoir maîtriser la réaction en chaîne des mots exactement comme on prétendrait maîtriser la réaction nucléaire en feignant de penser que l'énergie nucléaire permet juste de produire une énergie domestique quand on sait bien à quel point on joue avec un feu aussi puissant que celui du soleil. Comme l'énergie nucléaire, qui se prétend non polluante, la communication ne sait pas faire avec ses déchets. Alors, elle fait comme s'il n'existait pas. Curieusement, mais de façon tout à fait prévisible, à qui sait qu'il n'y a pas de contenu sans contenant, ni de fond sans forme, à ceux qui, tel Victor Hugo, savent que la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. La communication, qui prétend travailler uniquement la forme d'un message, propage une idéologie redoutable. Celle qui rêve de se débarrasser de la complexité du langage, celle qui prétend que l'être humain a d'abord des besoins et ensuite des désirs, que sa poésie n'est pas son essence, mais une occupation comme une autre. Le langage est notre malédiction et notre bénédiction, notre puissance et notre fragilité, notre danger et notre chance, notre lien et notre solitude. Le langage est notre sacré. La communication est sa profanation. La communication est son insulte. I've got big balls. I've got big...